Vous écoutez Radio Panique.
Bonjour, chers amis auditrices et auditeurs, et soyez les bienvenus pour notre émission mensuelle Le Chariot, émission qui apparaît tous les lundis de chaque mois à 14h30 sur Radio Panique, 105.4 FM. Et c'est toujours Anna qui vous parle. Je vous amène des histoires qui accompagnent le tarot, ses anecdotes, des tarologues, des nouveautés et d'autres idées toujours liées au tarot. Aujourd'hui, je vous invite à écouter l'interview que le tarologue Reynald Allois nous a très gentiment accordé pour parler de son travail lié au tarot en Belgique et ailleurs. Reynald nous parlera comment l'idée de devenir tarologue lui est venue, son expérience, sa passion, mais aussi son travail lié à la musique et les mantras ou chants sacrés de plusieurs cultures. Il nous parlera aussi du Festival du Tarot qui s'est passé en France le mois de septembre dernier. En plus, Reynald Allois se présente régulièrement en concert et donne des ateliers de cours de tarot et de chant. Nous allons entendre quelques morceaux de cet artiste polyvalent pendant notre émission d'aujourd'hui. Bien évidemment, nous parlerons aussi de l'arcane de numéro 17, l'étoile, qui sera présentée par Reynald lui-même. Écoutons tout de suite un des morceaux de Reynald. Nous nous retrouverons juste après.
Om Rim Namah Shivaya. Om Rim Namah Shivaya. Om Rim Namah Shivaya. Om Rim Namah
Namah Shivaya. Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Namah Shivaya. Tasmai Shri Gurave Namaha.
Nous avons écouté Udej Mantra Shiva, composition de Reinald. Maintenant, je vous invite à écouter l'interview. Bonjour Reinald, merci d'avoir accepté de nous accorder cette interview et soyez le bienvenu à notre émission Le Chariot, ici au studio de Rajpanik.
Bonjour.
Reinald, comment est venue à toi l'idée de devenir tarologue? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un jeune homme de prendre une décision si unique et spéciale de devenir tarologue?
Mais en fait, il n'y a pas eu du tout de projet ni de plan de carrière autour de ça. C'était vraiment la vie qui m'a amené à rechercher un outil de connaissance de moi-même, d'exploration de l'inconscient suite à des difficultés que je traversais à ce moment-là. Et donc, je lisais à ce moment-là La danse de la réalité de Alejandro Jodorowsky. Déjà dans ce livre, voilà, il parlait de ce tarot, de son cheminement lui-même par rapport au tarot, mais surtout, j'admirais aussi ce monsieur parce qu'il est cinéaste, il est metteur en scène, c'est un poète. Et donc voilà, je suis artiste par ailleurs, et j'ai pressenti que le tarot pouvait être un outil à la fois ludique, créatif, mais aussi un outil d'introspection intéressant.
Et quelle est ta méthode de travail ?
Donc je m'inscris vraiment dans l'enseignement d'Alexandro Jodorowsky et Marianne Costa. Donc moi j'ai été enseigné par Marianne Costa.
Pourquoi avoir choisi Marianne Costa ?
J'étais vraiment très intéressé, comme je le disais, par le fait que Jodorowsky était au départ artiste et Marianne Costa a écrit avec lui le livre La Voix du Tarot. Donc très naturellement, j'ai eu confiance et je me suis orienté vers lui pour cette raison-là. Parce que je pressentais que le tarot pouvait être un outil incroyable pour raconter des histoires. Donc dans l'introduction, vous avez dit que je suis chanteur, mais je suis aussi cinéaste. Et donc voilà, avec le tarot, j'ai senti qu'on pouvait raconter des histoires avec ces images. Et c'est comme ça que voilà, je suis allé me former au tarot à Paris, un week-end par mois pendant 2 ans, en même temps que je faisais l'étude de mon arbre généalogique, donc tout le travail de méta-généalogie dont parlent également Méta Jodorowsky et Marianne Costa. Et donc le tarot, au départ, était vraiment pour moi un outil créatif. Mais je me suis rendu compte que les histoires qui en sortaient étaient vraiment en lien avec toute cette profondeur, toute la psychologie aussi. Un outil incroyable de rencontre aussi, quand deux personnes font une lecture. Pour moi, c'est je vais au cinéma, quoi. On a vraiment toute la vie de cette personne, son histoire qui défile, et c'est passionnant. Et donc, petit à petit, je me suis rendu compte que j'avais là un outil incroyable d'exploration, à la fois créatif et psychologique. Et ça, c'est vraiment la spécificité de mon approche.
Et justement, Reinald, Marianne Costa a travaillé très longtemps avec Jodorowsky. Et à ton regard, quelle est la vraie différence? Parce qu'après, elle a lancé son propre livre en travaillant en solo, le tarot pas à pas. Quelle est la différence que tu vois entre Marianne Costa et Jodorowsky?
Marianne Costa a une approche pour moi très structurée et structurante. Je pense que même la voix du tarot a été possible grâce à tout son travail de structuration qui est là derrière. Jodorowsky est évidemment un grand maître du tarot, mais elle a permis aussi de structurer déjà dans la voix du tarot toute sa pensée et tout son génie. Dans le tarot pas à pas, déjà elle va un pas plus loin, j'ai envie de dire, dans sa compréhension de l'histoire du tarot, chose qu'on ne retrouvait pas dans la voix du tarot, donc déjà ça. Et puis, elle a son regard de femme aussi,
ah oui,
que je trouve de fait aussi très intéressant et très engagé. Donc, on peut voir des nuances principalement dans ce qu'on appelle les honneurs ou les figures, où la reine et le roi proposent une interprétation différente, en fait, de ces figures que dans la voix du tarot. Alors, je ne sais pas si vraiment on a le temps de rentrer dans le détail, mais en tout cas, c'est vraiment à ce niveau-là que ça se joue et qui est pour moi important parce que Jodorowsky est issu d'une culture latino-américaine. En tant qu'homme, il a, on pourrait dire, des conditionnements aussi culturels, bien qu'il a fait un travail énorme de nettoyer tout cet héritage. Et Marianne, elle est française et puis elle a vécu à Paris et donc culturellement, ça conditionne, je pense, une vision différente du tarot. Et puis Marianne est très engagée aussi comme féministe, même sans le revendiquer. Donc, c'est-à-dire l'importance de vraiment rééquilibrer ces deux polarités féminines et masculines. Chose qui est déjà très présente, c'est vrai, hein, dans la voie du tarot. Mais elle apporte son regard et un complément d'information.
Très intéressant. Et donc, actuellement, tu travailles en tant que tarologue aussi, avec une ligne très claire basée sur la connaissance que tu as acquise avec Marianne Costa.
Oui, et donc, voilà, étudier le tarot, je me suis rendu compte que ça pouvait être déjà très passionnant de le faire, juste en essayant de comprendre les symboles, la numérologie, ce qu'on pourrait appeler en langage tarologique le domaine des épées. Qui concerne principalement, l'intérêt intellectuel qu'on peut avoir pour le tarot. Mais le tarot nous dit, quand on regarde la carte Le Monde, qu'il y a plusieurs formes d'intelligence. Il y a cette intelligence-là, mais aussi l'intelligence créative, l'intelligence émotionnelle et l'intelligence corporelle. Et donc, c'est là où moi, j'ai pu faire le pont avec le tarot, avec mes 20 ans de pratique en tant qu'artiste, c'est-à-dire comment éveiller, susciter et explorer l'intelligence créative grâce au tarot. C'est là où le tarot, pour moi, est aussi un art de la narration, un art de la fiction. Là, on rejoint probablement toute cette grande école aussi de l'art de conter, l'art de la parole.
Ah oui.
Parce qu'en fait, par la parole, nous mettons aussi en mouvement des imaginaires.
Absolument. Et quand tu lis une histoire pour quelqu'un, quand tu joues le tarot pour quelqu'un, est-ce que tu rentres justement dans cette histoire de la personne en tant qu'humain, en tant que cheminement sur Terre? Comment tu peux analyser en une heure de lecture l'histoire justement d'un client, d'une personne qui vient à toi?
Déjà, j'invite la personne à se projeter dans la carte et à me dire ce qu'elle voit. Donc, c'est là où déjà réside toute la base de la démarche. C'est que, en fait, je ne vais pas délivrer comme ça, clé sur porte, une interprétation comme on pourrait ouvrir un petit bouclette et dire quelques mots-clés à propos de la carte. Je trouve ça vraiment inintéressant, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que voit la personne.
Ah, ok.
Et donc, de lui demander, sans vouloir même interpréter la carte, qu'est-ce que tu vois ? Même si parfois on s'attarde sur un détail. Quelles sont les impressions ? Et donc là, ça va me donner, si tu veux, un baromètre, quoi, de comment la personne se sent par rapport à l'arcane et par rapport à ce qu'elle projette de cet arcane. Et puis ensuite, à travers la lecture, on peut parfois avoir la sensation que, quand une question est posée, qu'on avance dans la lecture, qu'on est face à une impasse, qui est l'obstacle, en fait, que la personne fait face dans sa vie. Eh bien, pour moi, je n'hésite pas aussi à proposer à la personne de me raconter l'histoire autrement, en déplaçant les cartes.
Oui.
Donc parfois, quand les cartes s'enchaînent d'une certaine manière, que ce soit par la numérologie ou que ce soit par le jeu des regards, on a une phrase qui termine un peu en queue de poisson, comme ça, et où la personne ne sent pas l'ouverture. Et donc, je propose à ce moment-là à la personne, est-ce que tu peux réorganiser avec les mêmes cartes un autre ordre et me raconter l'histoire autrement? Alors en faisant ça, qu'est-ce que je fais? Je permets à la personne, en fait, de redevenir scénariste de sa propre vie. C'est-à-dire que avec les mêmes éléments et en racontant l'histoire différemment, je peux ouvrir de nouvelles perspectives. Donc pour moi, ça, c'est vraiment ce que j'appelle l'intelligence créative ou l'intelligence imaginative. C'est-à-dire que on peut faire confiance que à travers le langage des images, on communique en fait avec l'inconscient dans un langage qu'il comprend.
Oui, absolument.
Là où la psychologie, je veux dire analytique, rationnelle, qui tente de transformer un contenu inconscient en un contenu conscient, bon, c'est super intéressant sur le plan de la compréhension, ça c'est le langage des épées, mais c'est pas toujours ça qui arrive à mettre en mouvement en fait quelque chose au niveau de l'inconscient, là où le langage créatif le permet.
Oui, je comprends. Et tu te sentis grandir toi-même avec le tarot?
Bien sûr. Et je retourne vers le tarot avec le regard d'un enfant à chaque fois. J'essaye vraiment de ne pas, me laisser surprendre, de devenir un maître ou un pape dans le tarot, mais de continuer à être éternellement un battleur.
Reynald, autre chose que je voudrais savoir de toi, tu as plusieurs vies, disons comme ça, dans une seule vie. Donc, tu as ta vie de tarologue et tu as ta vie de cinéaste et cette vie de chanteur que je trouve formidable. Comment est ses côtés chanteurs?
Tout a démarré au Brésil il y a 30 ans quand j'avais 18 ans et puis c'est le Brésil qui m'a mis une guitare dans les mains et qui m'a dit « joue » quoi. parce que tout le monde chante et tout le monde joue là-bas alors c'est facile. Moi je ne jouais pas et puis je me suis mis à jouer parce que par imitation sans doute. Et donc ça m'a permis d'écrire mes premières chansons et pendant une dizaine d'années, j'ai écrit, composé, enregistré plusieurs albums. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout là-dedans. Ce qui m'intéresse principalement dans la musique, c'est la dimension du souffle et la dimension de la vibration. Et donc, depuis plus de 20 ans, j'explore différentes traditions de chants sacrés. Qu'est-ce que j'entends par chant sacré? Ce sont des traditions qui ont la conscience justement que le chant est une prière, le chant est un souffle, le chant est une vibration qui nous permet aussi de mettre en mouvement des choses dans l'invisible. Et donc là, je me suis intéressé non seulement au Brésil, à tous ces chants liés à la culture afro-brésilienne, qui est donc ces chants qu'on connaît nous sous le nom de vaudou. J'ai un frère qui est anthropologue, donc j'ai pu vraiment m'immerger pendant une dizaine d'années dans ces chants. J'ai eu un maître vraiment de chant qui m'a transmis, qui est Boris Choléouka, qui a vécu grande partie de sa vie en Belgique et qui avait déjà fait une synthèse très intéressante, qui m'a transmis donc à la fois des techniques de chant dit chant diphonique mongol, des mantras, donc toute la branche du chant védique, des polyphonies orthodoxes, des chants également liés à la tradition amérindienne. Donc tout ça, j'ai pu le vivre. Comme on pourrait dire une cuisine intérieure, c'était vraiment mon laboratoire à moi, jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'on venait frapper à ma porte pour me dire « enseigne-moi
». Ah, c'est super. Je te coupe un peu. N'oublie pas de continuer là où tu es arrêté parce que c'est vraiment très intéressant. Mais je voudrais faire une petite pause pour qu'on puisse savourer un de tes morceaux.
Stira Sukhamasanam, Stira Sukhamasanam, Stira Sukhamasanam, Prayakna Shaitilyananta Samapatipyam. Tato Dvandvanavigataha. Stira Sukhamasanam, Stira Sukhamasanam, Stira Sukhamasanam, Prayatna Shaitilyananta Samapattipyam. Tato Dvandvanavigataha. Stira Sukhamasanam, Stira Sukhamasanam, Stira Sukhamasanam, Prayatna Shaitilyananta Samapattipyam. Tato Dvandvanavigataha.
Voilà, Reynald. Merci beaucoup de connaître ton travail. Peux-tu continuer de nous parler, de nous raconter ta trajectoire?
Et donc, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que le tarot pouvait s'apprendre donc, dans le langage des épées, intellectuellement, pouvait s'apprendre créativement dans le langage des bâtons, on va dire.
Ah, ok.
Pouvait s'apprendre aussi relationnellement, émotionnellement, c'est-à-dire c'est un outil de connaissance des émotions.
C'est sûr.
Là, on est dans les coupes. Et aussi, j'ai vraiment expérimenté, c'est que le tarot passe par le corps, donc nous pouvons aussi ressentir des sensations, que ce soit un frisson, que ce soit quand on fait une lecture. Donc tout ça, pour moi, est langage, en fait.
Il y a une émotion qui émerge.
Voilà, et c'est une émotion qui est en lien avec le cœur, en lien avec le corps, en lien avec notre énergie vitale et en lien avec nos croyances. Et donc ça, c'est déjà pour moi une compréhension vaste du tarot, qui est beaucoup plus que juste un outil symbolique, intéressant, mais c'est vraiment une invitation à en faire un laboratoire, j'ai envie de dire holistique, de l'être complet. Oui. Quoi. Et donc j'ai développé en fait un apprentissage qui tient compte de ça. Et donc dans mes cours de tarot, sous la forme d'un week-end d'initiation, on va principalement, de fait, explorer les épées, donc la compréhension intellectuelle de la structure et des grandes règles d'orientation, mais dans les cours d'approfondissement, là, on va chanter le tarot,
ah oui.
On va danser le tarot,
wow.
On va rentrer dans le jeu théâtral aussi, et aussi des exercices de méditation liés au yoga, liés à la respiration, parce que pour moi, il s'agit avant tout de sentir le tarot plutôt que penser le tarot.
Ah, c'est formidable! Comme ça, ton stage, tu fais un stage de week-end, ça fait que la personne se développe par rapport à un jeu qu'elle fait, ou tu prépares un tarologue?
Eh bien, en fait, j'accueille un public très, très riche et varié. Il y a des personnes qui viennent dans mes stages de tarot sans du tout avoir le projet de se former au tarot, mais juste pour vivre une expérience créative et introspective.
Oui.
Et des personnes qui viennent vraiment pour étudier aussi le tarot et pour le nourrir de toute cette dimension créative, en fait. Et donc, c'est important pour moi de le préciser, parce que ça, c'est une méthode que j'ai vraiment mis au point, en fait. C'est le fruit, si vous voulez, de mon parcours.
Oui.
Comme j'ai un parcours de comédien, un parcours de cinéaste, un parcours de chanteur.
Et justement, en parlant le côté cinéaste, que peux-tu nous raconter?
Pour moi, nous vivons tous dans une fiction, nous vivons tous dans un rêve.
Oui.
Et le tarot nous donne en fait les clés pour se rendre compte que nous vivons dans un rêve, c'est-à-dire dans un système influencé par des conditionnements, que ce soit culturels, familiaux, peut-être même beaucoup plus anciens, de l'ordre de notre propre parcours d'âme. Et donc, s'en rendre compte, c'est important. Parce qu'à un moment donné, on peut décider aussi de se dire « Bon, est-ce que le rôle que je suis amené à jouer dans ce film convient ?»
Ah oui, c'est pas mal.
Ou pas.
Oui, absolument.
Et donc, de se rendre compte avec une lecture de tarot que peut-être que je ne suis pas à ma place. Peut-être que je suis en train de jouer un rôle qui est conditionné en fait par des injonctions qui viennent de l'héritage familial ou au contraire,
oui,
par des interdictions d'être qui je suis essentiellement. Et donc ça, c'est pour moi intéressant, c'est de se rendre compte que est-ce que je suis bien à ma place, c'est-à-dire est-ce que je joue le rôle que j'ai envie de jouer, parce qu'on jouera toujours un rôle et on sera toujours dans un rêve, mais autant que ce soit un rêve ou un film ou un rôle qui nous convient.
Mais c'est formidable parce qu'en fait, tu touches aussi un peu le psychologique de la personne, ou beaucoup même, en parlant des complexes familiaux. Mm-hmm. Alors donc, ça règle beaucoup de choses quand une personne découvre sa vraie place dans une société. Ça va sans doute ouvrir un chemin incroyable dans la vie de cette personne.
Complètement. C'est ce que Marianne Costa appelle la fiction réparatrice.
Ah.
Jodorowsky appelait ça autrement, il appelait ça la psychomagie.
Ah, c'est pas mal non plus.
Et moi je trouve ça de fait un art de la guérison, quoi. C'est un art de la guérison, c'est-à-dire que par le biais de la dramaturgie finalement, de la fiction, de la narration, je peux rentrer dans ce qu'on pourrait appeler un nouveau narratif par rapport à moi-même. Donc, en fait, ce qu'on appelle nos pensées limitantes, ce qui, par moments, nous contraint ou nous empêche d'avancer, ce sont juste des histoires qu'on se raconte à propos de nous-mêmes qui sont extrêmement mal racontées, qui ont été des histoires qu'on nous a peut-être dites aussi.
Oh, hein. Oui.
Peut-être des histoires qui ont fini par s'engrammer en nous et qui sont les projections de nos parents, les projections de la famille ou les projections aussi des milieux culturels dans lesquels nous avons évolué. Donc pour moi, aborder le tarot vraiment comme un outil narratif, c'est nous permettre en profondeur, au niveau de la psychologie, de comprendre ce qui se raconte. Et pour redevenir, comme je le disais tout à l'heure, scénariste de notre propre histoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais arrêter de subir ma famille, mon patron, les situations extérieures, pour reprendre le gouvernail et redevenir capitaine du bateau.
Mais c'est magnifique. Reinhold, est-ce que tu as des concerts prévus pour Bruxelles en ce moment?
Alors, les concerts que je propose pour le moment, ce sont des concerts de chants sacrés, issus donc de plusieurs traditions. Et pour l'instant, et ça dure depuis le confinement en fait, j'ai proposé ça en plein confinement, aller jouer dans les salons.
Ah!
Et en fait, je n'ai pas arrêté.
Ah, c'est super.
depuis la fin du confinement, chaque fois que j'allais jouer dans un salon, il y avait au moins une ou deux personnes qui me réinvitaient dans leur salon. Et ainsi fait le tour de pas mal de salons depuis lors. Donc en fait, il n'y a pas de date à proposer, si ce n'est de me dire si vous avez un salon qui peut accueillir minimum 15 personnes en participation consciente, ben je viens.
C'est sûr. Ah, mais c'est formidable. Eh bien, je vais essayer de trouver un de ces salons et t'inviter à venir chanter pour nous.
Avec plaisir. Et en fait, c'est pour moi aussi très intéressant puisque j'ai quand même fait pas mal de scènes pendant une vingtaine d'années. Et ce que je trouve d'intéressant dans les salons, c'est qu'on peut vraiment créer un espace d'intimité et en plus d'amener des chants sacrés qui fait que le salon se transforme, l'air de rien, en temple.
Ah oui.
Et qu'on peut vivre vraiment une expérience très belle et très intense avec ces chants, tout en étant dans notre espace quotidien.
Et de temps à autre, tu prends le chariot et tu participes d'autres choses.
Ah oui, oui, oui.
Tu viens de participer d'un festival, tu peux nous parler de ça?
Oui, donc c'est le Tarot Festival en France, dans le Gers, donc c'est dans le sud-ouest. C'est le premier et l'unique, en fait, festival de tarot en France. Donc, ce n'est pas du tout un salon de voyance ou de cartomancie, ni de bien-être. C'est vraiment des gens qui sont passionnés par le tarot et plus précisément par le tarot psychologique.
Okay.
Je fais la nuance parce que, voilà, on peut utiliser le tarot d'un tas de manières.
Oui.
Et là, ça rassemble, voilà, des tarologues, des conférenciers et des artistes aussi qui travaillent autour du tarot. Et donc, cette année, c'était là-bas. J'y ai présenté avec Isabelle Nadolny, qui est historienne et conteuse, la première de notre nouveau spectacle qui s'appelle Contes des Arcanes, inspiré de la carte de la Lune, parce qu'en fait, nous créons des spectacles inspirés du tarot. Donc, on a présenté notre première au Tarot Festival. C'était magnifique. Il y avait 100 personnes pour nous écouter et c'était magique, vraiment magique.
Super, oui.
Et donc, moi, j'interviens là avec la musique. Donc, tu vois, il y a de plus en plus de ponts entre mon rôle de musicien, chanteur et de tarologue, parce que pour chaque arcane, il me vient des inspirations, si tu veux.
Je comprends. Oui.
Et donc, ce conte des arcanes est un spectacle qui était en partie improvisé et puis qui s'est structuré petit à petit. Voilà, donc j'y ai présenté aussi une initiation au tarot que j'ai appelée « Apprendre le tarot en 78 minutes ».
Ah !
En sachant évidemment qu'on peut passer toute une vie à étudier le tarot.
Oui, c'est
et je me dis comment je vais réussir à condenser l'essentiel pour qu'une personne qui n'a jamais entendu parler du tarot puisse, une heure et demie plus tard, repartir avec les bases pour commencer à faire des lectures. Bon.
C'est toute une histoire.
Mais c'est possible.
C'est un exploit. Oui,
c'est possible. Et puis, le Tarot Festival présente aussi des conférences avec des personnes qui ont créé leur propre tarot, soit des personnes qui ont une vision particulière du tarot. Donc, c'est vraiment très intéressant. Mais donc, voilà, le Tarot Festival en France, c'est déjà la 4e édition.
Oui.
C'est la 3e fois où j'y vais. Et on commence à voir des Belges qui se déplacent jusque-là. Voilà, j'ai rencontré des Belges là-bas. Et j'ai rencontré aussi des Québécoises qui ont carrément traversé l'océan pour venir passer un week-end dans le Tarot Festival parce que c'est vraiment unique en son genre.
C'est super, c'est magnifique.
Smile.
Gérald, je voudrais aussi te proposer, si tu veux bien, nous explaner un peu au sujet de notre arcane de ce mois-ci. Il s'avère d'être l'arcane du numéro 17, l'étoile. La belle étoile. Donc, peux-tu nous parler oui. de cet arcane?
Ben déjà, je peux faire un lien déjà entre l'étoile et le chariot. Hein, c'est le titre de votre émission. Donc, parce que c'est le degré 7 dans les deux cas. On a le 7 du chariot et le 17 de l'étoile. Oui. Donc, le degré 7 nous parle d'une action vers le monde. Nous parle aussi d'une dimension de don de soi, de générosité. C'est le moment où le fruit est produit sur l'arbre. Hein, on part sur l'arbre, on commence par une semence et puis 7 degrés plus tard, et je vous épargnerai l'histoire de tous les degrés qui précèdent, mais c'est très intéressant de faire le parallèle avec l'arbre. Au degré 7, on est avec le fruit en fait. Donc l'arbre là, il donne généreusement, mais c'est quand même incroyable d'imaginer ça. C'est-à-dire on part d'une semence et puis ce sont des milliers de fruits qui sont produits. Donc ça, pour moi, c'est la dimension du 7. Donc le chariot comme l'étoile sont dans cette dimension de générosité. Alors le chariot, lui, il va vraiment se déplacer dans le monde. Il va vraiment prendre son véhicule et aller vers le monde, d'une certaine manière.
Oh bien.
Là où l'étoile, pour moi, fait le choix plus d'une, on pourrait dire, d'une sédentarité.
Ah oui.
Elle s'inscrit dans un paysage. Hein. On peut voir autour d'elle des collines, des arbres, un ruisseau. Et donc, on peut vraiment voir dans l'étoile cette dimension du territoire qui est là, mais oui. pas un territoire à conquérir, comme ce serait le cas du chariot, mais plutôt un territoire à fertiliser.
Ah oui, c'est bien vu.
Tu vois, il s'agit vraiment là de se poser, en fait, et de choisir à un moment donné un espace à travers lequel je vais donner. Alors, je vais te raconter une petite anecdote qui va te permettre de, enfin, vous permettre, les auditeurs et toi, de mieux comprendre ce que je veux dire. Pendant tout un temps, j'étais chariot et je passais de salle en salle que je louais pour donner mes ateliers. Ok, super. Mais à un moment donné, j'en ai eu marre. Oui. Je me suis dit, il faut que je trouve mon lieu. Et c'est là où j'ai rêvé un jour, en faisant un tirage, et c'est l'étoile qui était sortie, j'ai rêvé, ce serait vraiment incroyable d'avoir une yourte, tu vois, qui est une structure légère, en bois, en tissu, ronde, pour pouvoir donner mes ateliers.
C'est formidable.
Évidemment, en formulant ça, quelques temps plus tard, je vois passer une yourte d'occasion sur les réseaux, et je décide, sans même avoir un lieu, de l'acheter. Et évidemment, je n'avais pas l'argent pour ça. J'emprunte.
Ça, c'est ta passion de maths.
Oui, c'est ma folie. J'emprunte parce que je me dis, c'est ça que je veux. Donc, le fait d'acheter cette yourte, ben, ça va attirer le terrain à moi. Et de fait, le terrain est venu à moi. Alors, j'ai pu m'établir pendant un an sur un terrain. Puis rapidement, une autre opportunité s'est présentée dans un écolieu du côté d'Otigny qui s'appelle l'Arbre qui pousse. Et c'est un lieu magnifique où est plantée aujourd'hui ma yourte, où je donne mes ateliers. Et donc là, on peut bien comprendre pour moi l'étoile, parce que cette yourte, pour moi, c'est l'étoile.
Ah, c'est formidable.
C'est-à-dire, c'est un lieu où j'ai décidé de planter mes racines,
oui.
à partir duquel je rayonne dans le monde, si tu veux.
Ah, c'est super. Oui, je comprends.
Et en plus, chose très belle, c'est que pour pouvoir poser cette yourte, il a fallu que je construise une étoile au niveau des fondations.
Tu donnes des stages très souvent. Tu peux nous donner des dates ou on peut te suivre par où?
Alors, donc, la yourte s'appelle Soleil-Lune.
Oui.
Donc, en un mot, avec un seul L hein, au centre, Soleil-Lune, et qui est également les références de mon site, donc www.soleillune.be. Là, il y a un agenda en ligne où vous pouvez voir toutes les formations. Donc, principalement, les formations que je propose, c'est un week-end d'initiation. Je propose aussi 2-3 fois par an, en collaboration avec Véronique van der Wielen, Tarot et Constellations familiales. Et puis là, nous sommes en train de finaliser avec un ami qui a un long parcours dans le tantra, tarot et tantra.
Ah, mais c'est super.
Voilà. Oui. Et puis mes ateliers créatifs, toujours aussi autour du tarot, que je programme quelques fois par an.
De toute façon, Reynald, pour moi, l'histoire du tarot reste quelque chose de très riche. Ça nous enrichit à chaque fois. Et je suis très contente de t'avoir rencontré et d'écouter ton histoire. Merci beaucoup d'avoir participé de notre émission Le Chariot. Nous sommes vraiment très heureux de t'avoir entendu.
Merci.
À bientôt.
Oui.
Voilà, mes chers auditeurs et auditrices, c'est la fin de l'émission Le Chariot d'aujourd'hui. Notre prochain rendez-vous, qui sera aussi le dernier de l'année, se passera le 5 décembre, toujours à 14h30 sur Radio Panique, 105.4 FM. D'ici là, portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Au revoir. Thank you.